Mon why, ben justement, c'est de pouvoir vivre de ce que je fais, mais sans me prendre la tête. J'ai pas besoin d'être célèbre, j'ai pas besoin d'écrire des bouquins, j'ai pas besoin d'être à la tête CEO de je sais pas quoi ou de faire beaucoup d'argent. C'est vraiment m'éclater dans ce que je fais et faire du bien aux autres aussi. En fait, je me suis fait aider par plein de gens qui se sont vus en moi quelque part. Et c'est pour ça aussi que les gens, ils achètent pas un produit, ils achètent une histoire, ils achètent un soutien.
Bienvenue sur Pourquoi pas moi. Je suis Charlotte Desrosiers-Natral, la fondatrice de Pourquoi pas moi, l'auteur de Et si je changeais de métier et la créatrice d'un bilan de compétences Nouvelle Génération. Trouver ma mission de vie et écoutez ma petite voix, finançable à 100% avec votre CPF. Grâce à des témoignages sans coupe, découvrez les véritables coulisses de ceux qui ont écouté leur petite voix. Pourquoi pas moi, le podcast qui t'invite à écouter ta petite voix. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir une femme exceptionnelle, avec une résilience extrême. Zelda a eu clairement plusieurs vies à la fois, en termes de travail, et également en termes de cadre de vie. Suite aux Beaux-Arts, elle fait une brillante carrière d'architecte, où elle va s'expatrier au Moyen-Orient. Après 15 années, elle doit fuir sa vie et retrouver de toute urgence un nouveau travail. Elle atterrit alors en Suisse, poursuit sa carrière d'architecte, jusqu'à ce que la vie lui réserve de nouvelles mauvaises surprises. Aujourd'hui, Zelda est la fondatrice d'une marque de limonade qui a le très joli nom J'ose. Je ne vous en dis pas plus, je vous souhaite la bienvenue dans l'univers de Zelda Ziegelboom.
Bonjour Zelda.
Bonjour Charlotte.
Est-ce que tu pourrais nous parler de l'objet que tu as choisi pour te présenter, s'il te plaît?
Alors, j'ai choisi une bague des Danaïdes, qui est ce sont des designers parisiens. Mais plus que la bague, c'est ce qu'elle représente, c'est une pieuvre. Pourquoi la pieuvre? Parce que depuis des années, j'utilise la technique de la pieuvre pour avancer, pour me sortir de mes problèmes, pour construire, et donc j'envoie mes tentacules un petit peu à droite à gauche, j'en ai 5, et je fais plusieurs projets en même temps, et celui qui est destiné à vivre, eh bien c'est celui qui revient à moi, voilà.
Génial.
Et que j'utilise la technique de la pieuvre, eh bien ça fonctionne, ça marche très très bien, et c'est pas fatigant du tout, voilà.
Tu vas nous en parler du coup plus en détail. Est-ce que avant ça, est-ce que tu pourrais nous parler de où est-ce que tu as grandi, s'il te plaît?
Alors j'ai grandi dans une très jolie propriété dans la région parisienne. La première partie de ma vie. Ensuite, mes parents ont déménagé et on est allé dans la Garrigue, dans le sud de la France, dans un petit village qui s'appelait Fayence. Et donc, j'ai vécu pieds nus dans les fourrés, pas très au courant de ce qui se passait sur la planète. Et voilà.
T'avais quel âge du coup quand t'es partie là-bas?
9 ans. Et j'ai habité jusqu'à mes 17 ans. Donc, en fait, mon papa est décédé quand j'avais 16 ans. Et après, ça a été un petit peu le chaos. Et donc, je suis montée sur Bruxelles pour mes études à l'âge de 18 ans.
Et du coup, le choix des études, ça s'est passé comment pour toi?
C'est des études qui m'ont choisie. Voilà, j'étais entre génie et cancre. Souvent les cancres sont des génies ou l'inverse, je sais pas. Mais je pouvais être excellente à l'école comme je pouvais être super nulle. Et donc on m'a un petit peu laissée dans mon coin et j'ai suivi la vague. Et donc comme j'étais plutôt une artiste, j'ai fait des études à la fois de musique, de danse. Et j'ai fait un bac A3, donc littéraire, voilà.
Et donc, quand tu as fait ce bac, après, quand il était question de savoir, de choisir quel type d'études tu allais faire après?
Alors, soit c'était rentrer au conservatoire, parce que j'avais fait le conservatoire de Cannes, j'avais fait du chant classique et du piano. Et donc, je suis montée à Bruxelles et finalement, je suis allée m'inscrire aux Beaux-Arts.
Pourquoi?
Parce que j'ai toujours voulu être architecte. En fait, quand j'étais petite, je dessinais des maisons, mais je dessinais pas des maisons genre la façade avec le pignon. Je dessinais des maisons en plan. Déjà, genre à l'âge de 5 ans, quoi. Donc, c'était l'espace pour moi, c'était quelque chose déjà très très important. Donc finalement j'ai fait art plastique et puis j'ai bifurqué sur architecture d'intérieur. Voilà.
Et pourquoi Bruxelles du coup?
Parce que je connaissais ma maman connaissait des amis à Bruxelles chez qui je devais arriver. En fait, ils sont jamais venus me chercher à la gare.
Ah, c'est sympa ça.
Et j'avais fait des stages de musique pendant l'été et je connaissais des musiciens belges et on m'a dit bah écoute viens habiter chez nous et c'était des squats. Donc j'ai squatté pendant 3 ans. J'ai fait toutes mes études dans des squats.
Voilà. Quand tu dis des squats, vraiment littéralement des squats.
Ah, mais littéralement des squats. Ouais. C'était l'époque où Bruxelles allait être construit pour. Il y avait beaucoup d'urbanisation pour accueillir les 25 pays, parce qu'à l'époque il y en avait que 12, je crois. Mmh. Et puis ils faisaient des tas de bureaux, et il y avait des quartiers entiers qui étaient expropriés. Et pendant entre la période de l'expropriation et de construction, eh bien, il y avait toute une espèce de communauté un peu artistique qui vivait. On se prenait les plus belles maisons, évidemment. Hein. On vivait dans des maisons de maîtres sublimes. Et on ouvrait les compteurs nous-mêmes. On n'était pas super légal non plus, mais ça m'a permis de connaître des gens tout à fait extraordinaires et qui sont peut-être d'illustres inconnus aujourd'hui, mais ils avaient cette espèce de drive. De performance, c'était extrêmement artistique.
Et ta maman, ton entourage, comment ils vivaient ça, le fait que tu vives dans des squats?
C'était un peu compliqué parce qu'après le décès de mon papa, ma maman, elle a été un peu pété les câbles. Et puis elle a vécu sa vie parce qu'elle était relativement jeune en fait. Et donc on a plus trop parlé en fait.
D'accord.
La vérité.
Ouais.
Donc je me suis retrouvée complètement livrée à moi-même à 17 ans et demi, trois quarts.
Ouais.
Et puis voilà, c'est la vie compliquée, mais c'était j'ai absolument aucun mauvais souvenir. C'était génial.
Et quand t'es arrivée à la fin de tes études, ça s'est passé comment ça s'est passé du coup?
Bah, à la fin des études, déjà pendant les études, c'était un petit peu des roller coasters, comme on dit. Mais j'y suis arrivée. J'ai pas fait des grands diplômes. Hein. Les Beaux-Arts à Bruxelles étaient une école où on rentrait sans préparation et sans concours. On y arrivait, on payait un Minerval et puis vogue la galère. Et puis après, j'ai rencontré des tas de gens. Parce que c'est la force du network, hein. Faut pas se leurrer. Le monde, la vie n'est qu'une histoire de network et ensuite c'est à nous de nous éduquer. Et donc j'ai travaillé dans des différents bureaux d'architecture où je faisais des perspectives parce que j'étais super bonne en perspective. Je dessinais des petits personnages sur des perspectives super et puis je faisais un peu des plans et du café pour les boss et puis voilà, c'était. En même temps, je faisais plein de boulot, je faisais beaucoup de sculptures, je touchais à tout. Enfin, j'étais déjà une pieuvre à l'époque.
Ouais.
Et en fait, tous ces petits mini boulots que j'ai fait quand j'avais 18 ans, je m'en sers encore aujourd'hui à 54 ans.
Et du coup, ça a été quoi ton premier job?
Ah, mon premier job. Oui, oui, oui. Bon, j'ai dû, c'était des restaurants. Alors je mentais beaucoup à l'époque parce que en Belgique on était majeur à 21 ans et on n'avait pas le droit d'habiter tout seul et je signais pour mes parents tout le temps donc en fait je vivais une vie d'adulte en étant enfant en fait et donc je mentais tout le temps sur mon âge, je le fais encore un petit peu. Je dis que j'ai 60 ans.
Pourquoi?
Ben parce que quand vous avez 54 ans puis vous dites que vous avez 60 ans, vous paraissez super jeune.
Ah ouais, c'est vrai. c'est en effet.
Donc voilà et je faisais pas mal de sculptures, d'expositions, de choses comme ça. J'avais même fait la déco d'une boîte de nuit alors que j'allais jamais en boîte de nuit. Qui s'appelait mon Dieu, je me souviens plus. j'ai des trous, hein. Et j'ai le cerveau qui colle à mon âge. Et puis de là, voilà, network, des gens qui sont encore des amis, hein, c'est incroyable. Après presque 30 ans, c'est encore des amis aujourd'hui. Ils sont tous vieux, avec des cheveux blancs, mais ils sont toujours aussi fous.
Et ton premier job, du coup, en tant que dans le domaine de l'architecture?
Alors, je travaillais dans un bureau qui s'appelait Claire Beaupinon. Et c'est là que j'ai commencé à faire de l'architecture, voir comment fonctionne un bureau, quoi, la culture de l'entreprise. C'était pas tellement mon truc, hein, j'avoue. Donc moi, j'étais plus déjantée que ça. Donc en même temps, j'avais fait une petite, j'étais indépendante et je m'appelais Z Design et je faisais des meubles, je faisais des tas de design et je travaillais aussi beaucoup sur Paris. Et là, j'ai commencé à faire des décos chez les gens, des restos, des petits bars. Il y avait aussi une boulangerie qui s'appelait Delicatessen. C'était ma première chaîne de restaurant que j'ai fait à l'époque. Voilà.
Et ça te plaisait?
Ah, mais je kiffe, mais encore aujourd'hui, j'adore faire ça. Ce que j'aime pas, c'est les emmerdes. Éteindre des feux, faire de la négociation avec des gens qui veulent tout et puis pas donner. Et voilà, c'est ça qui est compliqué. C'est pas le boulot, c'est les gens, en fait.
Ouais, et c'est un métier où il y a besoin de beaucoup, beaucoup de personnes.
C'est ça.
Ouais.
Et les clients.
Ouais. Ça demande beaucoup, beaucoup d'énergie.
Trop.
Ouais. En 98, t'es partie du coup au Koweït?
Alors, oui. Alors, quand j'étais en Belgique, j'ai travaillé pour une entreprise qui s'appelait Rambag et qui était des énormes showrooms. Il y en avait à Anvers et à Bruxelles. Et c'est moi qui faisais toute la déco de ces showrooms. Et ça avait un côté très oriental, etc. Et donc, j'ai été cooptée par une entreprise libanaise qui ouvrait un bureau au Koweït. C'était juste après la guerre, donc le Koweït était encore un peu sale, on va dire. Et c'est comme ça que je suis partie. J'en avais ras-le-bol de 12 mois d'hiver. et je suis partie, mais genre en une semaine. Hein. J'ai tout liquidé, je suis partie. Et moi, j'ai toujours fait tout ça très vite.
T'avais quel âge, du coup?
J'avais 29 ans. Et quand on a 29 ans en Europe, on vous donne pas des super projets. Vous êtes toujours apprenti dans les bureaux et on vous donne des petits projets et les petits projets, ça prend autant de temps que les grands. Et donc, je me suis dit, si je veux vraiment faire une chouette carrière, faire des trucs qui ont de la gueule, il faut que j'aille ailleurs. Et donc, je suis partie et j'ai tout de suite travaillé pour la famille royale, en fait. On m'a mis sur des projets, mais gigantesques. Des trucs, moi, j'hallucinais, mais j'étais tellement contente. Par contre, j'ai dû bosser. Hein. Voilà, déjà pour apprendre mon métier, tout simplement, en anglais.
Parce que du coup, tu parlais pas bien anglais quand t'as commencé.
Alors si, moi j'ai toujours adoré l'anglais. Et puis tous mes amis à Bruxelles, curieusement, étaient anglophones. Je sais pas pourquoi, mais la plupart étaient anglophones et donc je parlais anglais tout le temps. Mais entre parler anglais et puis faire un métier en anglais qui est aussi complexe que l'architecture, le bâtiment, il faut.
Ouais, y a plein de langages hyper pointus, hyper spécifiques.
Voilà.
On en rigolait l'autre jour avec, parce que mon papa, il est architecte d'intérieur et décorateur.
Ah, d'accord.
Et un jour, il a dû faire mon papa ne parle pas du tout anglais. Et il avait un chantier à Londres. Ah, et du coup, ça coïncidait avec les études que mon frère faisait. Enfin, mon frère était aussi à Londres à ce moment-là pour ses études. Et du coup, mon frère rappelait l'autre jour qu'il faisait le traducteur pour lui. Mais sauf qu'il disait, va traduire un chambranle en anglais, quoi. C'est des trucs. Tu fais oui. Alors, c'est genre, il dit des mots que tu connais même pas en français, donc.
Doorframe. Ah oui, mais alors après, moi, j'ai dû repasser en français. Ça a été une galère sans nom. Et en plus, c'était même pas en français, c'était en français suisse.
Ouais.
Donc, c'est pas les mêmes Français.
Donc, ouais, et puis, t'as pas les mêmes normes, en plus, toutes les normes de sécurité, ça.
Ouais, non, ça va, c'est pas, je veux dire, c'est make sense, comme on dit, mais, et puis, on a des bouquins pour ça, les fameuses normes SIA en Suisse. Mais, c'est surtout, oui, le langage, et puis, qui vient, et le cerveau qui passe à toutes les langues, parce qu'en fait, au Koweït, je parlais français, je parlais anglais, je parlais arabe. Et puis pas le même anglais parce que chaque nationalité a son type d'anglais. Donc je pouvais parler anglais de Bombay ou anglais américain ou anglais british. Enfin c'est vraiment même en arabe. Je travaille avec des Égyptiens, des Syriens. C'est pas le même arabe. Et mon arabe il est nul. Hein,
mais t'as appris du coup l'arabe en vivant au Koweït ?
Oui bah au bout de 20 ans quand même on est un petit peu obligé. Mais bon, voilà, j'ai jamais voulu parler 100% parce que bon, il y avait déjà trop de choses dans mon petit cerveau. Et puis, il faut mieux pas parler arabe en fait, parce que vous passez tout de suite pour un local, une personne locale, je veux dire, pas un local, une pièce. Et donc, on vous paye un quart du prix. Voilà, vaut mieux être.
Et en tant que femme aussi, j'imagine que le regard de la femme occidentale ou locale est pas le même non plus.
Ah oui, oui, très différent. Oui, oui. Alors, on se fait des fausses idées là-dessus. Hein. Bon, c'est sûr que j'étais pas ce qu'on fly attendant, mais j'étais mohandessa, ça veut dire ingénieur. Donc le respect est très différent. Et franchement, j'ai jamais eu aucun problème vis-à-vis de ça. J'ai eu beaucoup plus de problèmes en revenant en Suisse.
Ah oui.
Voilà. Au Koweït, j'étais très respectée. On me portait ma valise, on m'ouvrait ma porte. En Suisse, on m'a mis dans un couloir et on m'a fait faire du café pour le boss, quoi. Voilà.
C'est pas la même.
Et c'est pas la même approche, on va dire.
Du coup, t'as enchaîné les expériences. Donc, t'as été au Koweït, au Liban, en Égypte, en Syrie, en Irak. Qu'est-ce qui a fait, du coup, que t'as autant changé de pays?
Alors, parce que le Koweït, déjà, c'est très petit. Et souvent, c'est un headquarter pour les entreprises. Donc, on travaille du Koweït, mais les chantiers sont un peu partout. J'ai travaillé donc pour la famille royale d'abord pendant 15 ans où j'ai fait une série de palais pour eux. Et là, j'ai vraiment tout appris. J'ai travaillé avec un project manager égyptien qui parlait français comme au 19e siècle. Je lui ai appris tous les gros mots, le pauvre. Mais ça a été mon mentor. Et avoir un mentor dans la vie, c'est hyper important. Je crois que c'est même primordial. C'est une espèce de pilier. Même encore aujourd'hui, c'est quelqu'un que j'appelle pratiquement deux fois par mois. C'est vraiment une personne incroyable. Et il a des positions maintenant qui sont tellement au top du top du top que je me dis mais comment il parle encore à une fourmi comme moi. Mais voilà, ça c'est des gens que j'ai gardé tout au long de ma vie. Il y en a quelques-uns comme ça qui sont the Egyptian Lord, je l'appelais.
Et du coup, pendant tout ce parcours-là, t'as réussi à avoir une vie de famille?
Non, pas du tout.
Non.
Non. Il faut savoir que le Koweït ou ces pays-là, c'est comme un aéroport en fait. On peut rencontrer des gens fantastiques, mais ils s'en vont. Voilà. Donc, on peut vraiment faire des bonnes rencontres, mais on peut pas construire ni une vie, ni avoir des enfants. Mais c'est un choix, hein. Moi, j'en avais un petit peu honte avant, mais maintenant, je m'en fous. Franchement, j'aime pas les mômes, quoi. Tout ça, c'est tout. J'avais pas du tout cette fibre maternelle, ou de me maquer avec un mec. Non, moi, je voulais faire ma vie. Je voulais faire toutes mes expériences. J'ai fait 50 000 trucs en même temps et je trouve que c'est génial, quoi. C'est pour ça que j'ai pu le faire. Si j'avais eu des enfants, je pense que j'aurais pas pu.
Ouais. Et qu'est-ce qui a fait, du coup, que t'as quitté le Moyen-Orient?
Une série d'événements, déjà. Alors, pourquoi je suis restée déjà aussi longtemps? Parce que c'est vachement... c'est pas évident quand même de vivre là-bas et de s'installer et d'y rester. C'est quand même des gens qui sont à la fois extrêmement gentils, très accueillants, très désert comme ça. Et en même temps, ils peuvent être ultra dangereux. Donc, il peut se passer quelque chose, une chose, et tout à coup, votre vie bascule. Et c'est un petit peu ce qui s'est passé pour moi. Mais j'aimais pas mal la culture. Et puis surtout, j'avais une écurie avec des chevaux. Et parce que moi, j'ai toujours, ça fait partie aussi de ma vie, ce sont les chevaux. Je fais du dressage de chevaux un petit peu compliqué. Un peu moins maintenant parce que je suis une vieille mémère, mais quand j'avais des muscles, c'était mon truc. Et au Koweït, j'avais une écurie de à peu près 6 à 7 chevaux en permanence qui tournaient. Et j'avais rencontré un maître équestre, un bédouin, qui m'a enseigné pendant 5 ans, tous les jours, 4 heures par nuit, je dirais, parce que la journée, il fait trop chaud. Une technique ultra ancienne de dressage de chevaux. Et donc, en fait, au final, votre cheval, il fait tout ce que vous voulez, il a ni selle, ni mort, ni rien du tout. Et voilà, c'est « natural horsemanship » en anglais, que je continue à faire ici. Et ça m'a complètement ouvert à la fois une manière de vivre. Enfin, c'est un art de vivre, c'est pas un sport. Et donc, comme j'avais tous ces chevaux là à ma disposition et puis surtout sous ma responsabilité, ben je suis restée pour eux. Et en fait, il fallait que je revienne en Europe parce que ben je me faisais pas payer, ça devenait compliqué. Tout ce qui est rapport avec l'argent et les Arabes, c'est compliqué. Hein, c'est pas vrai qu'on fait beaucoup d'argent. Et puis je prenais des risques surtout parce que je bossais en Irak. Car en 2008, quand il y a eu une grosse crise, tous les projets se sont arrêtés. Et au Moyen-Orient, là où la force d'inertie dans les autres pays va faire que ça va prendre du temps pour que la crise arrive, pour que les choses s'effondrent, et puis pas trop, et puis c'est aidé par l'État, etc. Au Moyen-Orient, c'est du jour au lendemain. Boum! Et tout s'arrête du jour au lendemain. Les gens, tout à coup, laissent leur bagnole à l'aéroport et ils se cassent. Ils partent, ils s'enfuient parce que tout peut basculer. C'est assez incroyable. Et donc, en 2008, plus de boulot, plus de chantier, plus rien. Et donc, on a pris des chantiers dans des endroits difficiles. Parce que à l'époque, je travaillais dans une entreprise syrienne de mobilier, d'agencement et de choses comme ça. On avait plein de showrooms, on avait une énorme usine avec 350 ouvriers qui étaient des artistes, hein, tous ils étaient géniaux. Et on a pris c'est de la déco, mais c'est aussi de l'agencement pour des ambassades dans des pays en guerre.
Ok.
Sympa.
Ouais, c'est...
Donc, on construit des murs avec plus de métal que de béton.
Ouais, t'es pas vraiment dans la décoration, là. T'es en mode vraiment... ouais.
Voilà. Mais comme c'était pour des ambassades du Moyen-Orient, ils aiment bien quand même avoir de l'or partout et de la soie sur leurs choses, sur leurs trucs. Et donc, je faisais les allers-retours Koweït, Irak, dans des conditions parfois complètement hallucinantes. Et... j'ai vécu des trucs complètement dingues. Et à ce moment-là, on a le cerveau qui disjoncte un peu. En fait, on n'est plus trop dans la réalité. La première fois que j'étais sous des bombes, c'est pour dire à quel point on est complètement le cerveau il fait tout pour aller bien. Je me suis dit, mais pourquoi il y a des gens qui se marient en plein jour? Parce que ça faisait comme des feux d'artifice. Et je me disais, mais pourquoi ils font des feux d'artifice en plein jour? C'est ridicule. Il vaut mieux faire ça la nuit, c'est plus joli. Enfin, c'est te dire à quel point on était...
Dans un déni total.
Complètement. Et ma première valise, d'ailleurs, je suis partie la première fois. Et c'était vraiment une période compliquée. Ça canardait partout. Et j'avais mis que des chaussettes. Dans ma valise, que des trucs comme ça. Donc, j'avais les mêmes fringues pendant je sais pas combien de temps. Enfin, de toute façon, on s'en fout, hein, mais. Et j'avais un petit sac Prada et une valise Vuitton, quoi. N'importe quoi.
Avec des chaussettes.
Et plein de chaussettes. Donc ça, c'était les machins, les disjonctages locaux. Et puis là, on commence à avoir des trucs qui se passent sur place, qui sont, enfin, c'est, je sais pas, c'est Mad Max, quoi. C'est, on a du mal à process tout le temps ce qui se passe, quoi.
Et à partir de quand, du coup, t'as dit stop?
Alors, ce qui s'est passé, c'est que dans l'entreprise où je travaillais avec ces Syriens, quand la guerre a commencé en 2010, on était en Syrie. Moi, j'adore la Syrie. C'était un pays fantastique. Les gens sont géniaux, des musiciens extraordinaires. Ils sont très cultivés. Les vieux parlent français, mais un français du 19e siècle. Enfin, c'était vraiment... Oh, j'adorais Damas. Puis du jour au lendemain, vous êtes l'ennemi, quoi. Voilà. Et puis, il faut partir, il faut tout laisser. Et donc, retourner sur le Koweït. Et puis, mes partenaires voulaient faire venir toute la famille qui était en Syrie, au Koweït. Et le Koweït avait fermé les visas. Donc, ils avaient payé des bakchiches pas possibles pour faire venir une cinquantaine de personnes. Et il faut savoir que les gens qui viennent des zones de guerre, ils sont pas reconnaissants quand ils arrivent dans une zone calme. Ils veulent tout. Ils veulent tout vous prendre. Ils sont hyper énervés. Ils sont pas heureux. Ils sont pas reconnaissants du tout. Mais pas du tout, hein. C'est hyper violent. Et donc, moi, j'ai été accusée par un des futurs beaux-fils d'insulte à l'islam. Donc, si vous allez dans une banque, puis vous pointez n'importe qui avec une arme et vous lui dites « donnez-moi l'argent », eh bien ça, c'est moins grave que d'être accusé d'insulte à l'islam. Et là, il faut avoir la tête ultra froide et il faut aller à son ambassade, s'enfermer dans l'ambassade, et puis essayer de sortir du pays, vaille que vaille. Et l'ambassade me dit, on peut rien pour vous. Et c'était super flippant quand même. Donc j'ai décidé d'utiliser ce que je savais sur les Syriens, sur cette culture. J'ai essayé d'utiliser mes connaissances et de résoudre le problème moi-même. Et il faut savoir que la culture syrienne, elle est très pyramidale. Donc il y a un boss, il y a le patriarche qui en général est le propriétaire de l'entreprise. Et puis tout le monde travaille dans l'entreprise. En fait, ils foutent rien, ils boivent du café, ils fument des clopes, mais c'est tout. Et ensuite, il y a tous les ouvriers qui sont eux ceux qui font vraiment le boulot. Et c'est toute cette famille foutait franchement rien et il avait plus aucune autorité sur eux et donc il a laissé faire. Et pourquoi? Pour regagner son autorité. Vu que moi j'étais un peu son meilleur cheval, celle sur qui tout reposait dans le sens artistique, image, stratégie. Clients, etc. Eh bien, il a voulu m'assassiner. Mon boss, ouais. Enfin, okay. Partenaire, boss.
Compliqué. Quand tu dis assassiner, c'est
dans les deux sens.
D'accord.
Voilà. Donc je lui ai téléphoné. Il voulait m'assassiner parce que voilà, dans la culture. Si on brise, on tue son meilleur cheval devant les autres vont avoir peur. Et comme c'est une culture qui est basée sur la peur et la honor and pride, sur l'honneur, eh bien les autres, de toute façon, allaient de tout se dire, oh là là, si il assassine son meilleur cheval devant nous, on a intérêt à se tenir à carreau. Et ça veut dire qu'il a un grand courage. Donc, et moi, c'est des gens avec qui je travaillais depuis 15 ans et qui étaient comme ma famille. Ils étaient, moi, les gamins, je leur apprenais tous à monter à cheval. On avait notre écurie ensemble. On était pas cul et chemise, mais il y avait beaucoup de respect entre nous. Et donc, j'avais compris pourquoi ils faisaient ça. Donc, je l'appelle, j'étais dans l'ambassade, je l'appelle et j'ai dit, écoute, on se retrouve sur la plage à l'heure de la prière de 5 heures. Donc, pendant les instants de prière, les Arabes n'ont pas le droit ni de mentir, ni de faire du parjure. Il faut vraiment être droit, on peut rien. Donc, je lui ai invité pendant l'heure de la prière à boire un jus d'orange sur la plage. Et là, c'était... ma vie ou ma mort, quoi, en gros. Donc, je lui ai dit, écoute, Oussam, c'est encore un peu, c'est encore un peu trop vivant, mais c'est pour ça que c'est difficile à, j'avais le cœur qui bat, et là, maintenant, j'ai encore le cœur qui bat de la même manière. J'ai dit, Oussam, t'es mon frère, ça fait 15 ans que tu me protèges, tes enfants sont comme mes enfants, sont comme mes neveux. Donc, je vais te proposer un marché. Devant les autres, je te permets de m'assassiner. Donc, tu vas dire que tu m'as viré, que j'ai dû quitter le pays, que je suis en prison. Tu peux dire tout ce que tu veux. Mais derrière, tu m'aides à sortir du pays. Et je te ferai... Je te poursuivrai jamais. Mais tu es comme mon frère et tu es obligé de me protéger. Maintenant, je comprends que tu as besoin de ton autorité et je comprends que tu veux m'assassiner. C'est pas un problème. Je sais que tu m'aimes, mais tu dois me protéger. Et c'est ce qu'il a fait.
Pourquoi tu pouvais pas sortir du pays?
Mais parce que j'étais travel ban. Parce qu'à à partir du moment où il y a une plainte contre vous,
okay.
Même à griller un feu rouge, hein, eh bien, votre nom est tout de suite à l'aéroport.
Ok.
Et on peut pas sortir du Koweït à part par l'aéroport, parce que c'est entouré par l'Arabie Saoudite. Et là, franchement, j'ai pas envie d'aller mettre mes pieds en Arabie Saoudite ou à la nage en Iran.
Et pourquoi tu sais pourquoi le fameux futur beau-fils ou il t'a
il voulait ma place.
D'accord.
C'est tout. Ah mais c'est simple, hein. Eux, ils ont pas de. C'est une autre culture. Voilà. Il faut la comprendre. Ça remonte aux Achachines, hein. On parle des croisades, ben c'est exactement la même mentalité, ça n'a pas changé.
Ok. Donc du coup, comment il t'a aidé à sortir du coup du pays?
Il m'a pas aidé à sortir du pays, mais il a enlevé la plainte.
Ok. Ce qui t'a permis du coup.
Voilà, ce qui m'a permis de plus ou moins me préparer à partir. En même temps, ben voilà, j'ai cherché n'importe quel boulot en Europe. Je suis tombée en Suisse dans une boîte à Gstaad.
Donc la Suisse a été vraiment un hasard.
Oui.
Il n'y a pas eu de réflexion sur le sujet.
Ah mais moi il n'y a jamais de réflexion parce que c'est toujours la grosse claque, le coup de pelle dans la figure et puis faut trouver des solutions. Ah non, moi je me pose pas de questions. Le destin ne m'a pas donné le temps de réfléchir. Voilà. Ouais.
Donc entre le moment où tu as ces discussions avec lui au moment de la prière et le moment où tu quittes du coup le pays, il se passe combien de temps?
Un mois. Ouais. Donc, et après, ce qui est étonnant, c'est que moi j'avais un magnifique bureau avec un sample room, avec j'avais le plus joli, plus grand bureau de l'entreprise et mon bureau, il paraît, il est resté 5 ans vide. Et ils appelaient même ça the Zelda Shrine, le temple de Zelda. Et un de mes petits collègues m'a dit, Hussam, quand il parle de toi, il dit Zelda, ça n'est pas une femme, c'est 9 hommes. Et il faut savoir que dans la culture islamique, 9 hommes, c'est ce qui valide un mariage ou une décision. Enfin, c'est vraiment un truc hyper sacré. Voilà, il y a la même chose un peu chez les juifs aussi.
T'as toujours une relation avec lui aujourd'hui?
Ah oui, ce gamin, il me téléphone, il m'envoie des messages de temps en temps. Mais enfin, je garde un peu ma distance quand même, parce que ça fait un peu mal. Hein.
Ouais, j'imagine. Parce que là, du coup, à ce moment-là, t'avais 47 ans.
J'avais 47 ans mais de toute façon, je sentais qu'il fallait que je sorte. Il y avait des signes. Hein, je sais pas, l'univers, il vous envoie des signes. Et puis il faut les écouter. Ça, franchement, il faut pas rentrer dans le mur. Ça sert à rien. Et ça, c'est un truc que j'ai appris avec toutes ces expériences. Ça sert à rien de s'acharner. Même si on perd de l'argent, c'est pas grave. Moi, j'ai laissé 180 000 $ là-bas. C'est pas grave. Je suis revenue. Je suis en bonne santé. Voilà. C'est la pieuvre.
Ouais. Donc là, du coup, tu commences à Stadt dans ce bureau du coup d'architecture haut de gamme. Voilà. Et donc c'est là où ce que tu nous racontais tout à l'heure que tu faisais des cafés.
C'est un peu une métaphore, on va dire quand même, parce que j'avais pas. Mais j'ai appris le mot mobbing que je ne connaissais pas, et je ne connaissais pas ce que c'était le mobbing.
C'est quoi le mobbing?
Alors, c'est sport national suisse. C'est du harcèlement moral.
OK.
Dans les entreprises. D'où les quantités astronomiques de burn-out en Suisse. Ce qui est incroyable, c'est que quand j'étais au Moyen-Orient, je vivais des trucs de ouf, que ce soit au Koweït, en Irak, en Arabie Saoudite, en Inde, enfin, parce que je voyageais pas mal. J'étais tout le temps occupée, j'éteignais des feux, enfin c'était stressant, il y avait tout ce côté mais burn-out connaît pas, on trouve des solutions, il y a pas de souci, tout va bien. Vous savez qui vous êtes, vous avez votre impact sur votre environnement, sur les gens, vous avez votre zone de confort, votre zone d'inconfort, mais vous arrivez quand même à gérer. J'arrive en Suisse dans un machin hyper sympa, les gens rigolos, tous en chemise à carreaux, avec ultra poli, enfin vraiment le bonheur suisse dans un endroit absolument idyllique. Évidemment, c'est pas pour rien que tous les milliardaires sont à Gstaad. Et en fait, tout à coup, vous vous rendez compte que vous n'existez pas. J'ai perdu mon nom, j'ai perdu mon identité. On m'appelait pas Zelda, on m'appelait A. Vous avez fait ci, vous avez fait ça, vous vous êtes trompé de couleur de tampon. Et là, j'ai vécu l'enfer ISO 9000, avec plein de papiers, de paperasse à faire. J'y comprenais rien, tout était en allemand. Enfin bon, mais comme je faisais mon métier depuis 30 ans, ben moi j'ai mis mes protocoles. J'arrivais avec mes protocoles, je faisais tout super vite, je parle plein de langues, donc j'arrivais sur les chantiers, les types étaient super contents, j'arrivais avec mes PV, tout le monde faisait leur boulot, les PV je les faisais en bande dessinée, c'est vous dire, pour qu'ils puissent comprendre mieux, et c'était super organisé, parce que les chalets c'est minuscule, enfin c'est des petits espaces, donc il fallait pas avoir 10 personnes dans une pièce, donc je faisais des projects, je faisais de la dentelle en project pour que les gars puissent faire leur boulot super tranquillement. Enfin, côté boulot, j'ai adoré, c'était génial, c'était beau, j'allais en vélo sur les chantiers, c'était génial. Mais derrière, tous ces gars qui étaient issus de l'apprentissage, qui étaient des anciens charpentiers qui sont devenus chefs de chantier et chefs de projet, ils supportaient pas mon côté très autonome, parce que là-bas c'est teamwork, et ils ont pas l'habitude d'avoir des femmes qui sont à des positions clés, donc des femmes qui donnent des instructions. Je dirais pas des ordres, parce que moi j'ai jamais donné d'ordre, mais je donne des instructions. Et donc on sabotait mon travail tout le temps, mais j'y arrivais, parce que moi saboter mon travail, je sais ce que c'est, hein. Je bosse 20 ans au Moyen-Orient, le sabotage c'est sport national. Et j'y arrivais parce que je m'en fiche. Moi, ce qui est important, c'est le travail. Et puis, tout à coup, ben, le mobbing, c'est aussi, tout à coup, vous n'avez plus rien, plus de travail. Du jour au lendemain, on vous enlève tous vos chantiers, puis on vous fait poireauter pendant 2 semaines, 3 semaines, comme ça. Et vous savez pas pourquoi. Et c'est là que j'ai commencé à avoir les doutes, enfin, tous les symptômes ont commencé. En fait, moi, mon burn-out, je l'ai fait parce que j'avais rien à foutre. J'avais plus
de... Ouais, en fait, c'était limite un bore-out, en fait.
Ouais, c'est ça, un bore-out, ouais. Un burn-out, parce que tout à coup, j'avais un truc énorme à faire, un énorme boulot, mais un truc que je devais faire en 2 jours, qui prend normalement 2 semaines. Ouais. Et puis, on me dit, bah, vous voyez, hein, vous êtes pas compétente. Et moi, je réponds, parce que j'étais chef d'entreprise. Donc, moi, je réponds. Je leur dis, mais attendez, non, ça fonctionne pas comme ça. Ça fonctionne comme ça, comme ça, comme ça. Vous, avec vos petits chalets, là, de 100 mètres carrés, moi, j'arrive de palais de 20 000 mètres carrés. Donc, c'est bon, vous allez pas m'apprendre à faire mon travail, quoi. Et puis, voilà, bah, ça, ils aiment pas.
Et du coup, comment il t'a parlé, ton corps?
Ah là là. La première chose qui se passe, c'est que vous perdez vos dents.
Ah ouais.
Ouais. Et j'avais un client qui était un ancien agent secret. Évidemment, il y en a pas mal par ici. Et il m'avait raconté la même chose, c'est que tout le stress, lui, il faisait des opérations spéciales en zone de guerre. Et la première chose qui s'est passée quand il est arrivé dans la tranquille Suisse, il a perdu ses dents. Et c'est les dents du fou.
J'avais jamais entendu ça.
C'est l'ancrage.
Ok.
Ouais. Donc la première chose, voilà, les dents du fond, boum, l'ancrage. C'est tout à coup, il y a tout qui s'infecte. Vous savez même pas pourquoi. Et puis des espèces de d'oubli aussi. Je pense que tu as dû faire aussi cette expérience où tu es dans un endroit. Et moi, je me suis perdue dans les toilettes d'une station de ski. Mais je savais plus où était la sortie. Mais la panique, des trucs comme ça, je savais pas où j'étais, ou j'arrivais plus à former des phrases, ou les chiffres devenaient abstraits. 3 + 3. Oh! Tout à coup, ça se mélange. Des trucs comme ça. Et là, ça fait vraiment flipper. Mais je ne savais pas ce que c'était le burn-out. J'ai été voir sur Internet. Et puis, j'ai pris 20 kilos, des trucs comme ça, quoi. Hein, des trucs de nana, quoi. Et puis, en même temps, ménopause, tout ça. Ça a fait un espèce de melting pot. Puis, finalement, j'ai fait un accident et j'ai pas pu marcher pendant 1 an.
Quand tu dis que t'as fait un accident, c'est-à-dire?
Je suis tombée dans les escaliers. Donc, je me suis fait virer. 2, j'étais livrée à moi-même pendant 1 an. Donc toutes mes économies ont passé et heureusement j'avais rencontré mon mari et qui est sanitaire, donc il est plombier pour les stars, voilà.
Il est plombier pour
les stars, c'est
les plombier, stars, d'accord.
Il est plombier des stars, voilà.
Ok.
et heureusement que je l'ai rencontré et tout à coup, ma perspective de vivre avec quelqu'un a complètement changé. En fait, je l'ai rencontré au moment le plus vulnérable de ma vie, mais le plus vulnérable. Le pauvre, il a eu le pire avant le meilleur, quoi. tout fait, lui.
Et à partir de quand, du coup, t'as vraiment pris conscience, t'es sortie du déni, t'as pris conscience que t'étais en train de faire un burn-out? Il t'a fallu combien de temps entre le déni et la prise de conscience et la, finalement, après, l'acceptation?
Mais ça a été très vite, hein. C'était une histoire de quelques semaines, hein, je dirais 2 mois. Le temps de me renseigner déjà, qu'est-ce que c'était le mobbing, qu'est-ce que j'étais en train de subir, pourquoi je me reconnaissais plus, pourquoi là où au Moyen-Orient je devenais mais ultra froide, il y avait plus rien qui me touchait. Même je me souviens un jour j'ai eu un cheval qui est mort en 2 heures. J'avais des élèves qui venaient pour monter à cheval. J'ai dit bon écoutez on revient après. Je suis partie, j'ai oublié, j'étais devenue un espèce de bloc de glace. Et c'est à ce moment-là aussi que je me suis dit, il faut que je retourne dans ma tribu parce que je deviens un morceau de pierre, quoi. Et quand je suis arrivée en Suisse, il y a tout qui est descendu, tout qui est tombé. Tout à coup, je me mettais à pleurer pour rien. J'étais trop sensible à tout. On me parlait, j'étais là, j'avais des palpitations de peur de voir mon boss. Non, mais des trucs de ouf, quoi. Et je changeais de personnalité. Et c'est à ce moment-là que je me suis dit, ah là là, il y a un truc qui va pas. Il y a quelque chose qui cloche.
Comment tu t'es fait accompagner?
Alors, j'ai beaucoup regardé sur Internet. J'avais une amie qui était psy, qui m'a un petit peu expliqué ce que c'est le burn-out. Et puis là, ben, le truc, c'est que il faut aller faire du cheval, faire de la randonnée, aller nager, faire de la peinture, dessiner, faire du piano.
Tout ce qui te ressource.
Voilà. Et puis surtout pas essayer d'aller bosser parce que ça sert à rien. Ouais. C'est pire.
Et du coup, quand tu t'es fait virer, c'était t'étais en burn-out du coup?
Ah bah complètement.
Ouais.
Je crois que je me souviens même plus de ce qui s'est passé. J'étais là devant les types, je voyais des humains devant moi, j'en comprenais pas ce qu'ils me disaient. J'arrivais de temps en temps un petit peu à leur répondre, mais j'avais la tête à l'envers, quoi.
Ouais.
C'est le truc, tu comprends plus. Enfin, je sais pas si toi, c'était arrivé.
Ah, le cerveau, tout, ouais, le cerveau est plus connecté. T'as vraiment l'impression tu n'arrives plus à réfléchir, quoi.
C'est ça. Il n'y a plus rien qui est connecté.
C'est ça. Ouais.
Et ça prend du temps pour que ça se reconnecte.
Ça, c'est sûr.
Ouais. C'est comme s'il faut reconstruire des neurones, il faut reconstruire des...
Mais c'est vraiment ça, hein, parce que tu vois, j'avais lu une étude qui disait que c'est scientifiquement prouvé que on a la capacité de perdre des neurones si on a une vie qui n'est pas alignée avec nous-mêmes, si on apprend plus, enfin il y a un ensemble de critères, ouais, qui fait qu'on perd des neurones et que du coup en effet, c'est, enfin littéralement, on perd des neurones pendant cette phase de vie, en fait. Et la bonne nouvelle, c'est qu'après, en se mettant en mouvement, on peut régénérer des neurones, et ça c'est chouette.
Mais les connexions sont différentes.
Ouais, après, bah, façon, ouais. On a, comme on se le disait juste avant d'enregistrer, c'est que moi, c'est le truc dont je prends conscience. Mon burn-out, c'était il y a 3 ans. J'ai pris conscience qu'en fait, j'aurais des séquelles toute ma vie, en fait. Et y a des gens pour qui c'est pas... Enfin, moi, j'en avais jamais pris conscience. Et c'est vraiment quelque chose qui est hyper important, je pense, de dire. C'est de dire, sachez que vous pouvez vous arrêter avant de vous prendre vraiment le mur très, très fort. Parce qu'en fait, quand vous le prenez vraiment très, très fort, en fait, c'est toute votre vie que vous aurez encore des séquelles, quoi.
Ouais. Bah, encore maintenant, il y a des trucs que j'évite. Par exemple, je veux dire, le petit problème de connexion, ça a été...
Ouais, parce qu'on a, un petit peu galéré, ouais, avant d'arriver à se connecter toutes les deux.
Ça a été... J'ai l'école de l'ESSEC, hein, qui a pris mon entreprise comme un cas d'école.
Ah, super.
Et ça fait la deuxième année, donc je travaille avec des petits jeunes, c'est super sympa, ils ont des idées chouettes, ils voient les choses d'une manière complètement différente, donc c'est super intéressant. Et là, c'était leur la soutenance, la dernière soutenance. Et je sais pas, mon GPS, il a complètement déconné, et j'étais en plein milieu de la pampa parisienne. Autour de Paris, mais je me suis mise à pleurer. Je suis arrivée là-bas, je me suis dit, mais enfin, c'est quand même dingue, quoi. Moi, je pouvais me mettre dans une bagnole, traverser la Chine, à pied, à cheval, en bus, tout ça. Pas de souci. Et ben là, maintenant, je galérais dans des petites routes autour de Paris, et c'était la fin du monde. Donc, on devient vraiment comme un espèce de marshmallow. Et c'est pour ça que le choix aussi de mon travail, ça n'a pas été un choix anodin entre faire de l'architecture qui est ultra complexe, puisque ton papa, enfin, tu sais ce que c'est, hein, on reçoit une carcasse en béton, après, il faut mettre tout ce qui est dedans. Donc, c'est quelque chose incroyablement complexe. C'est comme de la médecine, quoi. Et je voulais faire un travail qui soit manuel, donc où je dois pas penser, où je remplis des bouteilles pendant des heures et j'écoute des podcasts. Donc Et en fait, je me suis énormément instruite pendant que je faisais des bouteilles de limonade, quoi.
Alors justement, avant que, parce que du coup, les auditeurs ne savent pas forcément oui. ce que tu fais aujourd'hui. Oui. Donc du coup, tu fais ton burn-out pendant un an, t'es vraiment pas bien. Tu rencontres ton mari et
je suis passée. Alors, j'ai travaillé. Le chômage m'a envoyé dans une autre entreprise à Neuchâtel. Où on faisait de l'architecture médicale. Donc, c'était super créatif.
C'est quoi l'architecture médicale ?
Eh ben, c'est tout ce qui est cabinet de dentiste, de pour les yeux, pour tout. Enfin, c'est tout est blanc.
C'est créatif du coup.
Voilà, pas du tout mal. Ouais. Créatif zéro. Et mon boss était un manipulateur narcissique abominable qui employait que des femmes qui étaient un peu un peu tremblantes, fragile, ouais. un peu fragiles, et il faisait pleurer tout le monde, et enfin c'était un truc de ouf. Mais moi j'étais quand même la seule qui lui tenait tête, et après j'ai démissionné parce que c'était insupportable, et je me suis dit je suis plus du tout faite pour ça, et je me suis mise à mon compte. Et donc là il m'a envoyé les flics sur les chantiers pour concurrence déloyale. Donc, il a fallu que je me défende au niveau de la.
Sachant liste. Que toi, du coup, tu faisais quoi? Enfin, j'imagine.
Moi,
que
je continuais à faire de l'architecture d'intérieur. J'avais.
Oui, des appartements, des voilà, choses.
Des cabines médicaux aussi. Oh. Je faisais des bars, des restaurants. Enfin, c'était vraiment de la petite architecture. Mm-hmm. Mais j'avais pas besoin de plus. C'était très bien. C'était parfait. J'avais une petite équipe que j'avais commencé à monter. Ça commençait à vraiment bien marcher, bien gagner ma vie. J'étais tranquille. On me foutait une paix royale. Et puis tout à coup, lui, il s'en est rendu compte. Il a commencé à m'envoyer des flics sur les chantiers pour prouver que c'était de la concurrence déloyale, etc. Et donc, le temps que je puisse me défendre, parce qu'en Suisse, c'est compliqué de se défendre. Il faut beaucoup d'argent, il faut des avocats. C'est vraiment, si on est pauvre, on peut pas se défendre en Suisse. Hein, je veux dire, c'est pas super communiste comme endroit, quoi. Super socialiste, pardon. Et donc, le temps que je me défende, je me suis dit, mais il faut que je fasse un boulot, il faut que je vive, il faut que je fasse de l'argent, parce que j'avais plus droit au chômage. Le chômage est très court en Suisse, hein. C'est 200 jours. Et donc, j'ai commencé à faire la pieuvre. Et donc, j'ai lancé plein de petits projets.
C'était quoi, du coup, ces petits projets?
Alors, il y en avait un qui était génial, que je trouvais que c'était celui qui allait super bien marcher, c'était B&B Stylist, pour tous les gens qui ont des Airbnb tout pourris. Et je leur disais, mais écoutez, c'est pas vous qui allez me payer, c'est votre chambre, c'est votre Airbnb. Donc, j'avais fait un super site, c'était génial, j'ai commencé à contacter les gens. Ah non, 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 mais c'est très beau chez nous. Ah non, c'était horrible. Et je prenais vraiment les Airbnb les plus moches, genre avec le bac du chat qui était dans le bac du chat sale qui était dans la salle de bain, avec la photo pourrie, enfin c'était horrible. Et donc je prenais cela, je disais, mais vous savez, moi je vais vous faire votre Airbnb, je vous fais le stylisme et tout. C'est pas vous qui me payez, c'est votre chambre, et puis ça va vous coûter 300 euros par pièces et tout, mais pas un. Si, les copains et les copines chez qui j'ai fait au début pour faire mon site, pour faire des photos et tout. Et là, ça a été... je me suis ramassée comme une bleue. Après, j'ai fait... Je peignais des sacs. Alors ça me rapportait un petit peu d'argent, mais bon, on a vite fait le tour des gens qui ont des sacs à peindre. Je faisais des portraits de maison, je faisais plein de trucs, mais ça rapportait jamais assez. Puis ça me saoulait parce que finalement, tout ce qui est artistique, les gens, ils ont beaucoup de besoins. Ils ont pas des besoins, ils ont des désirs. Et les désirs, comme on le sait, hein, c'est à l'infini. C'est jamais assouvi. Donc, je me suis dit, oh là là, faut pas que je fasse un truc artistique. Ça, je dois le faire pour moi, pas pour les gens. et je faisais du jus pour moi, du jus de gingembre. Puis mes copines, elles adoraient ça. Puis j'ai commencé avec 20 bouteilles que j'ai vendues en 5 minutes dans une vente privée de fringues. J'ai dit, les filles, vous voulez rentrer dans vos fringues? Ben voilà, faut boire ça. Et ensuite, j'en ai fait 20, puis 30, puis 40. Puis là, maintenant, j'en suis à des milliers, quoi.
Et donc là, du coup, donc quand tu te dis, allez, je vais lancer ta marque de jus,
ouais.
J'ose, à quel moment tu t'es dit, ça va être une entreprise, en fait?
Ah, mais tout de suite, je me suis dit, mais l'année prochaine, je coule Red Bull. Non, tout de suite. Alors, je sais pas pourquoi, mais l'étiquette, elle est venue tout de suite en 5 minutes. En fait, tout ce qui est facile, ça marche. Tout ce qui est difficile, vous prenez des murs. C'est quand même dingue, ça. Et c'est pour ça que j'ai dit qu'il faut faire la pieuvre, il faut lancer plein de petits projets. Et puis, s'il y en a un qui arrive et puis qui est tout facile, tout tranquille, puis vous êtes content, puis ça vous rend heureux, puis ça vous éclate, et puis les gens autour, ils sont heureux, ben voilà, c'est ça. Parce qu'en fait, en architecture d'intérieur, je me suis rendu compte que les femmes étaient jalouses, elles sont tout le temps avec leurs désirs, puis au moment de payer, c'est des problèmes, et puis ils sont jamais contents, puis si, ah là là, c'est compliqué. C'est parce que c'est un acte politique de faire de l'architecture d'intérieur pour soi-même. Enfin, quand vous faites appel à un architecte d'intérieur, c'est pour qu'il reflète une image de vous qui est waouh, extraordinaire. Mais non, t'as peut-être pas le budget pour. Et donc, c'est tout de suite des conflits. Mais alors, vendre de la limonade, c'est juste génial. Tout le monde est content. En plus, ça a des super jolies couleurs, une petite nana en maillot de bain sur mon étiquette. Et ma vie a changé.
Et donc là, tu as commencé, comme tu disais, avec 10 bouteilles. Après, tu as commencé, si mes informations sont bonnes, sur les marchés.
Alors, après, j'ai commencé sur les marchés. Donc, je sais que tu connais Simon Sinek.
Oui, tout à fait.
Ouais, voilà. Donc le why, et puis le cercle, donc
Golden Circle, ouais.
Voilà, et puis ensuite la famille, les amis, les gens qu'on connaît pas, et puis ainsi de suite, et ainsi de suite. Et ça, j'ai complètement appliqué le truc à la lettre, quoi. Et puis ça marchait.
Du coup, c'est quoi ton why?
Mon why, ben justement, c'est de pouvoir vivre de ce que je fais. Mais sans me prendre la tête, j'ai pas besoin d'être célèbre, j'ai pas besoin d'écrire des bouquins, j'ai pas besoin d'être à la tête CEO de je sais pas quoi, ou de faire beaucoup d'argent. Je suis même un peu devenue feignasse, donc dès que j'ai fait assez pour payer les factures, j'arrête, je monte à cheval. voilà, c'est vraiment m'éclater dans ce que je fais et faire du bien aux autres aussi. C'est important.
Et donc t'as commencé sur les marchés et après comment justement bah le network et compagnie, c'est quelque chose qui est très important dans ton histoire.
Oui, alors le storytelling évidemment, hein, ça c'est très important. Donc beaucoup de femmes se sont vues dans mon histoire. Faut savoir que je suis pas en France, mais en tout cas en Suisse, à 50 ans, vous coûtez plus cher à l'AVS. C'est une cotisation que votre boss doit payer. Et souvent, les femmes se retrouvent à 50 ans dehors. Et comme la retraite est à 65 ans, ben vous avez 15 ans de no man's land où là, c'est un petit peu la galère pour nous toutes et on trouvera pas de boulot. Et ma conseillère du chômage m'avait dit, écoute Zelda, je t'aime beaucoup, mais il va falloir, c'est mieux que tu lances ta propre entreprise que tu ailles chercher un boulot ailleurs parce qu'ils pourront pas te payer. Donc elle m'a dit, ouais c'est bon, fais ton truc, moi je te couvre. Et c'est elle d'ailleurs qui a été une de mes cobayes aussi. Et puis après, elle a ouvert un restaurant, j'ai fait la déco de son restaurant. Enfin, c'était assez cool. Ça faut pas le dire. J'amenais les plans pendant nos soi-disant réunions de chômage, qui étaient devenues des réunions de chantier. Et puis voilà. En fait, je me suis fait aider par plein de gens qui se sont vus en moi quelque part. Et c'est pour ça aussi, les gens, ils achètent pas un produit, ils achètent une histoire, ils achètent un soutien aussi. Ils me soutiennent. Ils achètent pas mes produits, ils me soutiennent. Ouais. Ça, c'est génial.
Ouais. Et dans les aides, il y a des personnes qui t'ont prêté de leur cuisine.
Ouais. Alors, ce qui est incroyable, c'est que quand j'étais au top, personne qui m'aidait. Hein. Et là, je me suis retrouvée dans le caniveau. Alors, j'avais toute une communauté de femmes qui m'ont aidée. Et pourtant, Dieu sait si les Suisses sont plutôt des gens réservés, qui te voient de loin, etc. Eh ben non, là, je faisais partie du village. Elles sont venues presser du gingembre, elles sont venues remplir des bouteilles, coller des étiquettes. On m'a prêté des cuisines d'hôtel parce que j'habite dans une station de ski, donc en été ben les hôtels sont fermés et les cuisines sont à disposition, donc j'ai fait comme ça. Et ensuite j'ai presque fait un burn out parce que j'arrêtais pas de faire des bouteilles, et là il a fallu que je passe au semi industriel, donc une petite usine, et maintenant je fais à peu près 2000-2500 bouteilles par mois, mais on va augmenter la capacité à 4000 ou 5000 bouteilles.
Et là, du coup, elles sont, ouais, si on veut les acheter, comment on fait?
Alors, en France, on est en train d'établir un système de vente en France. Donc, j'ai un collègue qui est sur Marseille et qui est pour le moment, il est jeune, hein, donc il fait les choses une après l'autre. Il fait pas tout en même temps.
Et puis à Marseille, on est tranquille.
Voilà, il est tranquille.
tranquille. Attends, en ce moment, il fait chaud.
Il fait chaud,
donc,
alors on travaille pas.
Voilà. C'est ça, attends, c'est l'heure de la sieste.
Donc, mais ça vient. Il y a toutes sortes de choses à régler, d'étiquetage, de choses comme ça pour la France. Et puis sinon, ben voilà, en ligne, je vends beaucoup en ligne, énormément en ligne. Et j'ai des points de vente un peu partout dans la Suisse.
Et en ligne, on peut acheter en France ou il faut attendre
Je vais ouvrir, pour justement, faut que ce gars à Marseille puisse s'occuper de la logistique. Il y a tout un truc à mettre au point pour la logistique en France, mais ça va venir. Et sinon, on peut le trouver à Marseille, à Lyon, à l'épicerie Patate. Okay. À Lyon, et puis une ou deux autres épiceries, mais ça, je t'enverrai les liens.
Avec plaisir. Voilà. Et dans l'aventure Jose, déjà, en ayant écouté ton histoire, on devine pourquoi le nom, mais qu'est-ce qui t'a donné envie de l'appeler comme ça?
Alors, le nom, au départ, ce n'était pas Jose, ça s'appelait Ventre Plat.
Le nom de l'entreprise?
L'entreprise s'appelle Atelier Zelda, parce que comme je suis indépendante, je suis obligée de mettre mon nom dedans. Mais,
ah bon?
Oui.
Ah, d'accord.
Bon, c'est un truc. Atelier Zelda Ziegelbaum, c'est pas super glamour, mais c'est le nom de l'entreprise. Mais la marque de mes jupes, au départ, s'appelait Ventre Plat sur une petite pin-up années 50, toute ronde. Et c'était un gag, franchement, c'était un gag. Et donc, je me suis fait harponner par les denrées alimentaires, l'Office des denrées alimentaires, qui m'ont demandé qui ont dit que c'était une allégation de santé. Et en Suisse, ça rigole pas. Il faut tout de suite changer le nom, changer tout, rien dire sur les effets. Voilà, ça c'est un petit peu les lobbies des pharma. On n'a pas le droit de parler des effets des produits naturels.
Et ça faisait combien de temps que tu avais lancé du coup la marque?
Waouh, au moins 3 ans déjà.
D'accord.
J'ai dû changer l'année dernière.
Ok.
Ça fait 5 ans. Ouais, 4 ans. Ouais. Mais ça pouvait être très grave, hein, parce que vous pouvez avoir carrément un casier judiciaire. Donc, j'ai dû prendre des avocats et me défendre de nouveau. J'ai dit, je fais de la limonade, quoi. Une fois, on peut me lâcher la grappe. Mais c'est comme ça. Hein, il faut se plier, c'est la loi. Et donc, comme je ne pouvais pas parler des pouvoirs du gingembre, j'ai donc parlé des super pouvoirs du gingembre. Donc, avoir des forces surhumaines, recevoir des messages du futur, des trucs complètement débiles. Je me suis dit, oh là là là, ils pourront pas me harponner. Et en fait, ça a tellement bien marché, cette histoire de super pouvoir, que les gens, ils achetaient mes boîtes, il y avait marqué la box super pouvoir, et les gens, ils achetaient ça comme un bouquet de fleurs, quoi. pour des cadeaux. Donc, du coup, d'un truc complètement déprimant, c'est devenu une idée un peu rigolote et contre des idées, des institutions rigides. Eh bien, en fait, finalement, ça a été un super coup marketing, un génial coup marketing.
C'est un beau cadeau mal emballé.
Exactement, c'est le mot.
Et à partir de quand, du coup, tu as pu te payer avec, avec Jose?
Si je le dis, même pas le mois qui a suivi le début, quoi. Parce qu'au début, je les vendais super cher. C'était des bouteilles de 1 litre. Et puis, je vivais pas super bien, mais je me faisais mon salaire en 2-3 mois. Ouais. Avec un investissement de 200 euros hein, au départ. Depuis, j'ai rien investi. Alors, je gagne pas des millions. Je vis très simplement, très sobrement. J'ai pas, je dois gagner le SMIG. SMIG français. Mais un peu plus que le SMIG français quand même. Ouais, parce que sinon je pourrais pas vivre ici en Suisse. Mais disons oui, le salaire minimum, mais tout de suite. Hein. Puis là maintenant ça tourne parce que c'est addictif. Donc j'ai des gens qui j'ai un fonds de commerce. Mais c'est hyper sympa, vraiment.
Ouais, aujourd'hui t'es épanouie dans ce nouveau métier.
Ouais, c'est très sympa. Bon, il y a des hauts et des bas. Il y a des moments où on est découragé. Genre je dois faire 1000 km pour aller chercher 50 kilos de framboises, mais voilà, ça fait partie du jeu, c'est comme ça. Pénurie de verre en ce moment en France, un peu partout d'ailleurs, et les prix qui ont augmenté. Donc tout ça c'est des petits, mais bon, c'est rien, c'est franchement rien par rapport aux emmerdes que j'avais avant, c'est clair.
Ouais. Comment tu écoutes ton intuition?
Il faut que ce soit rapide. En fait, l'intuition, elle est un peu, je sais pas pour les autres, mais en tout cas pour moi, c'est toujours dans l'urgence. C'est genre, moi, il me faut me mettre des murs devant pour que je puisse prendre la direction droite ou gauche. Je me pose pas 50 000 questions, c'est tout de suite, boum, comme ça. C'est, mais voilà, qu'est-ce que c'est l'intuition déjà? Et pour moi, l'intuition, c'est pas magique. L'intuition, c'est des années de connexion entre telle idée, et à tout ça qui fait une soupe ou une potion magique. Boum, ça y est, c'est fait. Mais c'est pas quelque chose d'ésotérique. C'est vraiment le fait d'avoir énormément d'expérience dans tout. Ah, des squats que j'avais où j'habitais quand j'avais 18 ans, jusqu'à mes années mes années incroyables du Moyen-Orient et les chevaux et puis tout ça, c'est tout est connecté en fait. C'est ça l'intuition. Enfin, je sais pas quelle est ta définition de l'intuition, mais pour moi c'est ça.
Moi, c'est souvent, c'est le corps qui te parle et qui t'en, t'as la vie qui t'envoie, comme on disait tout à l'heure, ouais. La vie qui t'envoie des signes, le corps qui te parle et l'enjeu, c'est d'arriver à être les pieds sur terre pour pouvoir écouter et être capable d'entendre les signes, quoi.
Et pas écouter les autres. Ouais. Ouais. Parce que le conseilleur n'est pas le bon payeur, n'est pas le payeur, je sais plus comment on dit. Ouais. Voilà. Et puis il y a un dicton de Socrate que j'aime beaucoup sur le secret du changement, où il dit le secret du changement c'est de concentrer toute son énergie pas à lutter contre le passé mais construire l'avenir. Donc en fait t'as un peu tendance à oublier tout ce qui s'est derrière, tout s'est passé derrière. Ouais, mais les connexions restent.
C'est ça. Les prises. Regarder le meilleur du passé pour pouvoir construire l'avenir.
Ouais. Ouais. Ou le plus mauvais du passé, pour pas faire les mêmes erreurs.
Oui, c'est ça. Enfin, ouais, on est d'accord aussi. Comment tu célèbres tes réussites?
Comment je célèbre mes réussites? Mais c'est tout con. Hein. Je suis dans mon salon et je saute. en disant yes. Et avec les yeux plein d'étoiles. Mais je saute. Mais comme une gamine de 5 ans, quoi.
Ouais, c'est bien.
Voilà.
À quel moment dans ta vie tu t'es dit pourquoi pas moi ?
Tous les moments. Toute ma vie, ça a été pourquoi pas moi. Il n'y a pas de limite, en fait. On a essayé de me mettre des limites et... Tu sais, cette fameuse impuissance apprise dont parle si bien Berkane, Idrissa Berkane, tu connais ?
De nom.
Ouais, c'est un neuroscience.
Ouais.
Il est assez controversé, mais il y a des choses qui sont assez sensées. Et puis, j'aime beaucoup cette idée de l'impuissance apprise. Nous, on fait partie d'une génération à qui on a détruit nos ambitions, mais détruit, quoi. T'es nul en maths, tu y arriveras jamais, etc., etc. Mon mari, il est comme ça, hein. D'ailleurs, c'est le seul truc où on s'engueule, c'est ça. Je lui dis, mais tu m'accables, tais-toi. Je vais y arriver.
Ouais.
Mais c'est notre génération, on est comme ça.
C'est quoi pour toi la réussite?
Alors là, c'était une notion qui a pas mal changé avec le temps, hein. Ça, je veux dire... C'est la sagesse. la réussite, c'est vraiment d'être en bonne santé. Pour moi, ça, c'est vraiment super important. D'être épanouie et de pouvoir payer les factures, vivre bien, faire du bien aux autres. Et puis, mais c'est pas du tout devenir célèbre, CEO, couler Red Bull et tout ça, quoi. Ou être une grande architecte. Ou... La compétition, ça m'a toujours saoulée et j'ai toujours je me suis jamais inscrite à des awards, à des trucs comme ça parce que j'aime pas la compétition. Je déteste ça. D'ailleurs pour travailler au Moyen-Orient hein, pour faire les projets qu'on a fait, ils ne prennent absolument jamais des architectes qui veulent devenir des stars. Vous devez être le plus petit possible et le plus inconnu possible parce qu'ils détestent les stars et la Suisse c'est un peu comme ça aussi.
Qu'est-ce que tu penses que la petite Zelda de 6 ans dirait si elle te voyait aujourd'hui?
Alors la petite Zelda de 6 ans, waouh, oh, travaille plus ton piano. Et puis, peut-être plus focus sur un truc au lieu de 50 000 trucs en même temps, quoi.
Ouais. Pourquoi travaille plus ton piano?
Parce que ça fait 50 ans que je fais du piano et que je fais toujours des erreurs et que je joue 2 heures par jour et qu'il n'y a rien à faire, je n'y arrive pas. Alors les autres diront waouh ouais, tu joues super bien, mais en fait s'ils savaient les milliards d'heures que j'ai passé sur mon piano, ils diraient non c'est nul.
Dans la vie on dit que quand on fait des choix on fait des renoncements. C'est quoi du coup tes renoncements à toi avec Jose?
Avec Jose, mes renoncements, le luxe. Parce que ça me gagne beaucoup moins en faisant de la limonade qu'en faisant de l'architecture, mais c'est clair. Mais c'est pas grave. Je vais pas chez le coiffeur, c'est pas grave. Je vais pas au restaurant, c'est pas grave. C'est pour ça que je vis dans un pays qui est génial, qui est superbe. Et j'ai l'impression de vivre comme une milliardaire, quoi. C'est sûr qu'en ville, dans un petit appart, là, ça serait un peu plus compliqué.
Que là, du coup, t'es à la campagne?
Ah oui, mais je suis dans la montagne, moi.
D'accord.
Ouais. Je suis dans l'endroit le plus prisé de Suisse. Ça s'appelle le Pays d'en Haut. Donc, c'est presque comme Eden, hein. Et c'est à côté de Gstaad. C'est une station de ski qui est aussi belle l'hiver que l'été. Et on a une vie, outdoor, on va dire. On est tout le temps en rando, j'ai mes clients au téléphone à 2000 mètres d'altitude. Je dis oui, je vous prépare votre commande, je vous envoie une palette demain. C'est trop cool.
C'est quoi la plus grande difficulté que tu as eu à traverser?
la plus grande. C'est quand je suis arrivée du Moyen-Orient et que je me suis retrouvée où j'avais plus de nom, plus de clé de maison, parce que j'étais dans un hôtel au début. Toutes mes affaires étaient dans un container, sur un bateau. Et puis, j'avais plus d'impact sur mon environnement, sur les gens autour de moi. J'étais, voilà, c'est ça aussi ce changement. Attention, hein, c'est pas donné à tout le monde de pouvoir passer d'un pays à un autre, d'un métier à un autre. Je suis passée du Moyen Âge au 20e, 21e siècle. Enfin, c'est un truc. C'est tellement incroyable qu'à la fois c'est excitant, mais c'est flippant quand même. Hein.
Et comment t'as géré du coup ?
Mal. Non, c'est pas vrai. Je suis trop dure sur moi. Non, j'étais hyper fière. J'étais hyper fière. On parle souvent du syndrome de l'imposteur et tout ça. Mais je crois qu'il faut avoir du temps pour avoir du syndrome de l'imposteur. Moi, j'avais pas le temps d'y penser. Il fallait me remettre à parler français, remettre à écrire français, travailler avec une autre mentalité, redevenir une petite apprentie dans un couloir avec mon petit bureau. C'était voilà, c'est une sacrée claque, mais c'est génial.
C'est quoi tes peurs aujourd'hui ?
Mes peurs, j'essaye de pas en avoir. Je fais confiance à l'avenir parce que si j'ai des peurs, je suis tétanisée, je suis comme une statue de pierre. Ça arrive, mais j'essaye de lutter contre. Parce que là, les peurs, ça vous laisse pas avancer, ça vous fait reculer, ça vous fait prendre des mauvaises décisions. C'est abominable. Puis c'est les autres qui vous font peur en plus. C'est même pas vous-même. C'est les autres qui arrivent avec des idées de fou là et qui vous disent non mais là il y a un truc qui va pas bien se passer. Il y a ça, il y a telle loi, il y a telle ci, telle ça. Oh là là, moi j'écoute personne. J'écoute des podcasts super sympas comme les tiens.
Ah, c'est sympa, merci.
Quand je faisais mes bouteilles, j'écoutais beaucoup tes podcasts.
Ça me touche, merci. De quoi t'es la plus fière aujourd'hui ?
De quoi je suis la plus fière ? Bon, à 54 ans, j'ai réussi à pas être trop moche. Trop ridée, trop grosse, trop, voilà. D'avoir un corps qui arrive à me soutenir et qui arrive à tenir le coup pour faire tout ce que je fais. Et je remercie mes gènes, ma génétique, mes parents, de m'avoir donné ce corps qui me permet de tenir tous ces challenges. Parce que sans ça, on n'est rien. On peut avoir la tête, mais si on n'a pas le corps, ça marche pas.
Ouais.
C'est cette santé, quoi, cette vigueur qui est hyper intéressante et on peut pousser le bouchon. Moi, je me surprends à faire des choses, mais c'est incroyable, quoi.
Si tu croises quelqu'un dans la rue là et qui te dit, qui connaît pas ton histoire et qui te dit mais super, t'as lancé ta marque, j'ose, tu n'en es là que grâce à de la chance. Qu'est-ce que t'auras envie de lui répondre ?
Ben, on le dit tout le temps. Ah, t'as de la chance, t'as trouvé j'ose. Non mais attends, je l'ai pas trouvé dans un caniveau, je l'ai fabriqué, je l'ai monté. Les gens ils comprennent pas. Je dis ouais, j'ai super de la chance. Vas-y, va chercher dans le caniveau si tu trouves un truc. Non, il fallait que je trouve un produit que personne ne faisait, que j'ai dû créer ma niche. Parce que sinon, on allait encore me tomber sur le paletot. Donc, je me suis dit, il fallait que je crée quelque chose. Mais les gens, ils disaient, t'as trouvé un truc, c'est à la mode, demain, il n'y aura plus rien. Ouais, c'est ça. Tu laisses tout. C'est de la jalousie, c'est pas grave, on s'en fiche.
Est-ce qu'il y a un conseil que tu aurais aimé recevoir? Et du coup, que tu aimerais donner aujourd'hui ?
Oui. Le network. C'est la base de tout. Il faut s'éduquer après. Il faut s'éduquer. Il faut être bon dans ce qu'on fait. Il faut avoir des compétences. Ça, c'est une chose. Mais si on n'a pas le network, on va nulle part, on fait rien. Enfin, même si on peut être le meilleur pianiste, le meilleur dessinateur, le meilleur tout dans son petit coin, on va être que frustré en se disant oh, mais il y a des autres qui sont nuls, ils sont là à la télé, mais c'est n'importe quoi ce qu'ils font, et moi je suis là, je suis la meilleure dans mon petit coin. Non, c'est le network. Et ça, je n'avais pas conscience de ça avant. J'ai bossé 15 ans pour faire des projets d'exception. Vraiment des trucs de dingue. Personne ne les connaît, personne ne les voit. Les photos sont interdites. Et finalement, c'est pour ça que je suis pas dans la deuxième partie de ma carrière à la tête d'une super entreprise en tant qu'architecte et de faire des méga projets. Parce que je n'ai pas donné assez de temps au network. Parler de soi, le branding de soi-même. On vit dans ce genre de société aujourd'hui maintenant. Autrefois, c'était l'excellence, la longévité. Aujourd'hui, c'est l'enveloppe et le network et le tchat-tchat-tchat, le blabla. C'est vrai, hein?
Ah ouais, c'est vrai.
Moi, j'ai des articles de presse parce que je fais de la limonade. J'ai jamais eu d'articles de presse parce que je construisais des ambassades en zone de guerre. Pourtant, je peux vous dire que un peu plus de boulot que ça, quoi. Enfin, je veux dire, c'est un peu plus glam que ça.
Et c'est quoi le meilleur conseil qu'on t'ait donné?
Le meilleur conseil qu'on m'ait donné? Il y en a eu plein. Faut pas s'acharner. Il faut avoir la capacité de faire ses valises, de partir, de tourner les talons, partir. C'est pas de la fuite, c'est juste pas de perdre son temps, quoi. Pas rester dans des endroits avec des gens qui vous sont toxiques ou des boulots où on n'est pas content ou des. On peut faire le même boulot dans une autre entreprise et être super content, même si c'est peler des patates, hein. Moi, j'adore peler des patates. D'ailleurs, pendant le Covid, j'ai fait que ça, peler des patates et des carottes. Je faisais à manger pour les vieux de ma rue.
C'est quoi tes prochains défis?
C'est de passer à l'étape au-dessus dans mon entreprise. Donc, faire plus de bouteilles, vendre plus. Vers la soixantaine, vendre mon entreprise. C'est mon but, hein.
Ouais.
Je vais pas vendre du jus toute ma vie, quoi. Mais, voilà, je prépare ma retraite avec ça.
Est-ce que t'as un conseil de lecture à partager avec nous?
Ah, la lecture. Je lis beaucoup en anglais, moi. Mais j'adore le bouquin de la veste, de Roger, Roger. Comment elle s'appelle?
Annabelle Roberts. Ouais,
Robert.
La théorie de la veste.
La théorie de la veste, c'est absolument génial. Mm. J'adore. Mais voilà, c'est une anglophone, hein.
Ouais, elle est canadienne. Voilà. Elle est canadienne, Annabelle. Ouais, tout à fait.
Et en fait, tous les anglophones, ils ont le concept de l'échec qui est complètement différent que nous. Nous, on a un échec. En Europe, hein, en France surtout, un échec, vous êtes stigmatisé à vie. Mais eux, c'est fail often, fail early, faites un échec tôt et faites-en beaucoup. Ils n'ont pas du tout cette même notion. Et c'est un peu ça, c'est le problème de chez nous.
Ouais. Je recommande l'écoute de l'épisode avec Annabelle, parce que je mettrai le lien sur le blog, parce qu'en effet, enfin, pour ceux qui n'ont pas écouté, c'est Annabelle était mormone et aujourd'hui c'est une entrepreneuse française qui réussit super bien et elle a écrit justement ce livre sur la théorie de la veste qui est en effet un super coup de boost.
Ouais. Alors moi j'appelais ça se prendre des râteaux, mais c'était le même concept, hein. Se prendre plein de râteaux et après on a la peau dure, quoi.
À qui as-tu envie de dire merci et pourquoi avant qu'on se quitte?
Alors justement, j'ai envie de dire merci à ce mentor qui s'appelle Mahmoud Abdallah Salah, qui est un architecte, project manager au Koweït, à Dubaï et partout, et qui a été vraiment une personne qui m'a tout appris dans mon métier. Et puis un énorme merci à mon maître équestre qui s'appelle Abou Haris et qui m'a appris justement ce côté simple de la vie et de s'adapter et de la simplicité pour pouvoir faire des choses énormes mais avec rien. Donc c'est de pouvoir dresser un cheval 400 kilos de muscles et d'esprit, du vent, et de pouvoir le dompter qu'avec sa propre son cœur et son corps, d'où le corps qui était hyper important. Voilà. Et je suis persuadée que toute ma vie c'est ça, c'est de faire rien, enfin de faire tout avec rien, parce que c'est possible. C'est ce que j'ai fait dans ma cuisine, hein. Donc voilà.
Si donc du coup, de toute façon, je mettrai les liens sur le site pour pouvoir avoir plus d'informations sur Jose. On va où?
On va sur jujose.com. Ah. Il y a l'histoire, le petit narratif de mon entreprise. Il y a des petites vidéos, des recettes, les produits. Voilà.
Génial. Un grand, grand merci, Zelda.
Merci.
Et puis, avec plaisir. Et puis, on suivra la suite et puis l'arrivée sur le marché français.
Super. Voilà. Merci.
J'espère que ce nouvel épisode vous aura plu. Je vous donne rendez-vous demain dans la newsletter de Pourquoi pas moi. Et en attendant, si le podcast vous plaît, soutenez-le en mettant 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast et en vous abonnant sur votre plateforme d'écoute préférée. À la semaine prochaine !